Nous restons debout pour la louange, pour le temps du remerciement. Célébrons le souffle, l'énergie vivifiante qui inspire au cœur de toute personne le goût du vrai, la passion de la justice, l'attrait du silence. Il a suscité au cours des temps et suscite toujours des prophètes pour contrer la loi du plus fort, pour dénoncer les exactions, pour appeler à un retournement personnel et social. Il incite de génération en génération des êtres et des groupes à se réapproprier l'héritage reçu pour ouvrir à leurs contemporains des chemins d'avenir. Il permet à chaque humain, au cours de son histoire, de franchir des étapes inconnues, s'aventurer sur des terres incertaines, traverser des nuits, surmonter des épreuves. Que notre meilleur hommage au souffle qui nous inspire soit de lui être disponible en toute notre existence et maintenant. Amen. Nous poursuivons la louange en chantant au psaume 33 les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33. Voici ce que Jésus le Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous chanterons le spontané de la page 15. Nous nous recueillons dans la prière. Nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide. Et je vous propose de le faire en suivant dans votre cœur un psaume, le psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la grâce de Dieu. Et c'est toujours avec des paroles de Jean ou celui qu'on appelle Jean, dans la première épître. « Dieu est amour, écrit-il. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Nous avons vraiment vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui éternellement. Amen. Et je vous invite non pas à chanter le spontané, mais dans les recueils Nos cœurs te chantent, à chanter le cantique 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité, le 258.
Thank you.
Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous de sentir, entre les pages ouvertes, trembler les portes de notre monde, d'entrevoir son ébranlement et de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurées. Dans notre lecture trop rapide des Écritures, de nos existences, de notre temps, de notre monde. Amen. Lors du culte de Pâques, il y a un mois à peu près, je vous disais que l'évangile de Marc n'avait pas besoin d'être complété au-delà de sa finale d'origine, le verset 8 du 16e chapitre, et la mention du silence et de la peur des femmes. L'évangile de Marc est tout à fait bien terminé au verset 8, il est même plutôt tout à fait bien ouvert. Eh bien, voici aujourd'hui un extrait de la finale longue, celle qui a été rajoutée dans le courant du IIe siècle en condensant des éléments des autres évangiles. Il y a la mention d'une apparition du ressuscité à Marie de Magdala, comme dans l'évangile selon Jean, et puis une autre apparition à deux hommes qui vont à la campagne. On peut y entendre un écho du récit des pèlerins, de ceux qui sont en chemin vers Emmaüs dans l'évangile de Luc. Et ces trois témoins ne sont pas crus par les 11 disciples. Et puis il y a ensuite les versets que nous allons lire. Et si c'est ce texte qui porte la prédication pour ce dimanche, c'est qu'il fut prêché le jour de l'ascension 1726, de l'année 1726 à Leipzig, la célébration au cours de laquelle, pour laquelle, Jean-Sébastien Bach avait composé la cantate qui sera jouée au cours du culte de cet après-midi. Voici donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 14 à 20. Enfin, Jésus se manifesta aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha sévèrement leur manque de foi et leur obstination, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après son réveil. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, pour ne pas en rester sur le silence et sur la peur des femmes au tombeau vide, l'auteur de la finale longue commence par un échec et une réprimande. L'échec, c'est celui du témoignage de Marie de Magdala et de deux hommes auxquels le ressuscité est apparu. Et donc, le récit commence avec une nouvelle apparition du ressuscité aux 11 disciples avant d'être enlevé au ciel, c'est-à-dire de ne plus être présent physiquement, matériellement dans le monde, avant de ne plus pouvoir être vu par des yeux ni touché par des mains. le ressuscité est désormais absent. Mais cette absence n'est pas un abandon. Elle n'est pas une absence vide qui laisserait les disciples livrés à eux-mêmes, à leurs regrets ou à leurs remords, à leurs souvenirs, au désarroi ou à la déception. En effet, les paroles qui sont adressées aux disciples par Jésus-Christ portent en elles de quoi orienter et remplir leurs existences et celles de tous ceux qui veulent être disciples du Christ vivant. Mais c'est donc par une réprimande que cela commence. Une réprimande sévère. Jésus reproche aux onze leur manque de foi et leur obstination, littéralement leur incrédulité et leur cœur de pierre. On dirait plus facilement la dureté de leur cœur. Et cela parce qu'ils n'ont pas cru les trois témoins des précédentes apparitions, Marie de Magdala, puis les deux hommes qui étaient en chemin. Et pourquoi les onze ne les ont-ils pas crus ? Alors nous pouvons penser que, d'un seul cœur, unanimement, ils ont tous fait leur Thomas. On ne croit pas ce qu'on ne voit pas. Ou alors qu'ils n'ont pas cru les trois témoignages parce que ces trois témoignages n'étaient pas concordants. En effet, le ressuscité s'est manifesté aux deux hommes sous une autre forme qu'à Marie de Magdala. Et il est vrai que les récits d'apparition du ressuscité dans le Nouveau Testament témoignent d'une multiplicité de formes et de manières pour le Christ vivant d'apparaître à des disciples. Tantôt il est reconnu, tantôt il ne l'est pas. Tantôt le texte insiste sur sa dimension corporelle, il le fait même manger avec les disciples. Tantôt il le fait surgir d'un coup au milieu d'un groupe dans une pièce fermée. Tantôt le ressuscité est visible avec un corps, tantôt il est seulement audible dans une lumière éblouissante. Cette diversité invite à ne pas nous crisper sur une seule manière de comprendre comment est le ressuscité. Et cela nous invite à accueillir la diversité de témoignages de foi avec une souplesse d'esprit qui résiste aux oppositions simplistes, avoir tort ou avoir raison, être dans la vérité ou être dans l'erreur, la faute ou le mensonge. Car se tenir dans cette alternative conduit à rétrécir le monde, à le découper en camps retranchés, et ça, ce n'est pas du tout le monde ouvert par l'évangile du Christ vivant. L'incrédulité et la dureté du cœur que le ressuscité reproche aux onze disciples désignent en creux bien la confiance et la souplesse du cœur, la souplesse d'esprit auquel tous les disciples sont appelés, c'est-à-dire la foi non comme une somme d'articles, une expression fixe à croire, mais comme un cheminement et une diversité d'expressions. Et aussi un élargissement de l'esprit, capable donc de reconnaître d'autres expressions de la foi et de la vie, les reconnaître comme expression de foi et de vie, ce qui ne signifie pas qu'il faille absolument les adopter. Et c'est avec cette ouverture de confiance et de souplesse de cœur et d'esprit que le ressuscité envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier, c'est-à-dire de vivre comme des disciples. Vivre en témoignant par leur existence de ce qui les fait vivre comme disciples, de ce qui les rend parlants, agissants, aimants, présents, c'est-à-dire engagés dans le monde. Dans le monde, et l'auteur précise, dans toute la création. Et c'est bien plus que les seuls êtres humains. Ce sont aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, l'eau, la terre, la planète, l'univers. Tout cela compris comme lieu et temps où les humains reçoivent la vocation d'exercer une présence, une responsabilité particulière de veille, de vigilance, de préservation, et qui est en même temps une vocation à l'action de grâce et à l'émerveillement reconnaissant. Jésus-Christ ressuscité envoie ses disciples vivre dans la création afin qu'ils s'y comportent selon ce que lui-même a manifesté d'attention, d'amour, de soin, de disposition et de capacité à relever et à réveiller. Jésus-Christ enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu est attesté, confessé comme modèle d'accomplissement de la volonté de Dieu, comme modèle d'accomplissement de l'humanité de l'humain, suscitant et inspirant les Christ, les Messies, que sont appelés à devenir les disciples. Alors oui, bien sûr, chasser les démons, parler en langue nouvelle, saisir des serpents, boire des breuvages mortels, poser les mains sur les malades et les guérir, oui, évidemment, c'est cela, vivre selon le Christ, vivre en lui, vivre comme des Christ. C'est cela, notre vocation. C'est tout cela, mais pas de manière littérale, évidemment, en interprétant. Chasser les démons, c'est-à-dire repousser ce qui écrase l'humanité d'une personne, sa conscience, sa liberté, ce qui écrase sa capacité à faire confiance et sa vie intérieure. Le démon, c'est ce qui envahit l'esprit de l'humain comme une armée ennemie occupe un lieu pour y imposer sa loi, ses conditions et ses objectifs. Ce peut être un esprit de convoitise ou de compétition, un esprit d'amertume ou de peur, ou une idéologie qui altère la représentation du réel. Un esprit, non pas un être surnaturel, mais une forme d'esprit et de pensée qui prend la place de l'esprit et de la pensée libre, critique, capable d'initiative, large et ouvert aux différences et à la diversité. L'évangile de Marc donne dans son ensemble une large place au récit d'exorcisme de Jésus, qu'il décrit comme œuvre de rétablissement de la vie, et même comme une œuvre de recréation d'une personne dans ses relations avec elle-même, avec les autres et avec Dieu. Parler en langue nouvelle, cela ne signifie pas qu'il faille apprendre le japonais ou le lingala. Cela évoque la disponibilité à écouter, à comprendre, et puis à employer des langages différents, afin de s'adresser à ceux qui ont d'autres cultures, d'autres codes, d'autres références et représentations du monde, peut-être pour une question de génération, pour une question de lieu d'habitation, pour une question d'éducation. Parler en langue nouvelle nécessite de la confiance. Croire que cela ne nous met pas en danger de nous intéresser même de près à ce qui est différent. Et cela demande, cela nécessite de la souplesse de cœur et d'esprit pour reconnaître ce qui est beau et bon dans une autre culture, dans une autre manière de parler et d'être, et pouvoir ainsi entrer en dialogue. Cela nécessite aussi une maturation, le temps de comprendre et de s'efforcer d'être compris, en allant rejoindre les autres là où ils sont, sans les obliger à adopter, sans leur imposer notre propre langue. Mais c'est peut-être aussi parler en langue nouvelle. C'est peut-être aussi traduire l'Évangile qui n'est contraint par aucun langage, par aucune forme, pour parler au cœur de ceux à qui l'on s'adresse. Comme par exemple Jean-Sébastien Bach l'a fait avec le langage de la musique. Comme d'autres l'ont fait et le font encore dans les multiples domaines de l'art, là où l'inspiration et la création recueillent, rassemblent, déploient et font du bien. Ensuite, il s'agit de saisir des serpents. Bien sûr, on ne se précipite pas sur le premier crotal qui passe. Il s'agit plus précisément de lever, et même d'enlever, car le verbe grec a les deux sens, ces serpents. Et peut-être même de les lever pour les enlever, c'est-à-dire de les supprimer. Et là encore, le Christ exhorte à la confiance et à la souplesse de cœur pour soulever le sable et les pierres de nos vies ou du monde et enlever ce qui est enfoui de menaces pour les humains, ce qui envenime les situations et les relations, ce qui siffle le dégoût et la peur, ce qui génère l'atroce sentiment d'être en danger. Il y en a des nœuds de vipère, enfouis sous les apparences, enfouis peut-être pour tenter d'y échapper ou de les oublier. Alors les exposer permet non seulement de les repérer, mais aussi de s'en débarrasser. Nous sommes appelés au courage et à l'espérance, au courage de l'espérance et de la foi pour mettre au jour ce qui menace l'humain et les sociétés humaines et qu'ainsi, les consciences réveillées, les responsabilités relevées, le monde devienne un peu plus vivable et la création dans son ensemble un peu plus respectée. Ensuite, boire un breuvage mortel. Et on ne va pas saisir la première coupe de cigu qui passe, ni même se concocter une infusion de muguet, tenez, on est le 2 mai. Ça se terminerait très mal. Certainement s'agit-il plutôt de plonger dans la réalité, avec les poisons de la haine et de l'indifférence, qu'un style tant d'idéologies et de discours affolés par la diversité, la différence, la nécessité du changement. Il s'agit certainement de plonger dans la réalité avec la mort inéluctable, à laquelle tant de discours proposent d'échapper à force de distraction ou d'accumulation, mais qui sont comme autant de toxines qui détruisent l'intériorité de l'être humain. La confiance, la foi, la vie spirituelle soutiennent la capacité d'être et d'être vivant. La vie de la foi, la vie spirituelle, avec la méditation des Écritures, le partage avec d'autres personnes, la prière, cela nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde et à discerner ce qui est bon et fiable pour la création. Cela nous aide à ne pas nous laisser submerger par ce qui ne l'est pas bon et fiable. Alors, poser ses mains sur les malades, les toucher, le geste implique de se rendre proche, de témoigner de la compassion. Il signifie le refus de se résigner à la souffrance, à l'isolement, le refus délibéré de se détourner de ceux qui sont affaiblis ou fragilisés. Le geste marque un engagement de l'être et le choix de la solidarité, de la fraternité, de l'amitié envers ceux dont l'être est altéré, ceux dont la vitalité a diminué. Les mains des disciples, c'est-à-dire leur présence réelle. Nos mains, nos présences réelles peuvent soulager, aider ceux qui ont perdu espoir, sens, conscience. Dans le monde, le nôtre, traversé d'angoisse et de souffrance, en proie aux violences, aux fuites, aux dénis, aux fragmentations, dans ce monde complexe et en évolution, nous sommes rendus capables, par l'autorité du Christ, de réparer, de restaurer, de soulager, de soigner en son nom, qui est un nom pour la guérison, pour le relèvement, pour le réveil, pour la résurrection de chacun. L'ascension n'oriente pas le regard vers le ciel, mais vers le monde. L'ascension n'engage pas dans un retrait du monde, mais dans une implication renouvelée. L'ascension n'invite pas à la passivité, mais elle induit une dynamique de vie et de foi. Le récit de l'ascension, l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel s'asseyant à la droite du Père, écrit en langage mythologique un message très simple. Maintenant, c'est à nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre et vous associer à une expression de la foi de l'Église. Et nous chanterons ensuite le spontané de la page 18 du livret bleu. Dieu est avant toute chose. Il est au-delà de toute chose. Nous reconnaissons son appel. Dans la libération de l'esclavage ou de l'exil, dans l'inspiration des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples, fiers de leur puissance ou se débattant dans leur faiblesse, nous reconnaissons son appel. En Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon sur les erreurs, dans sa proximité avec les pauvres et les affligés, dans sa vie consacrée aux autres, sa vie brisée par l'indifférence et le mépris, nous reconnaissons son appel. Et avec les innombrables hommes et femmes qui lui ont répondu et qui l'ont loué avant nous, prophètes, apôtres, disciples et témoins levés, relevés et réveillés, nous célébrons la puissance de sa bonté et la fidélité de son amour. Amen. Quelques annonces. D'abord, pour dire que nous sommes reconnaissants d'être accompagnés pour ce culte à l'orgue par François Guerrier, qui n'était pas venu depuis un certain temps, et que nous nous réjouissons de retrouver, et qui participera au clavecin cette fois à la cantate cet après-midi. Ensuite, certainement avez-vous reçu le bulletin de l'amitié du mois de mai. Si jamais vous ne l'aviez pas, il y en a sur la table au fond du temple. N'hésitez pas à en emporter et puis à me dire si vous souhaitez le recevoir, si cela n'est pas le cas. Dans les activités de la semaine, alors donc en commençant par aujourd'hui, la collecte de produits alimentaires non périssables, produits d'hygiène et produits d'entretien se poursuit toujours et poursuivons-la avec fidélité, persévérance et générosité. Je porte une fois par mois à peu près le produit de cette collecte à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge et c'est accueilli avec beaucoup de reconnaissance. Donc continuons. Cet après-midi, donc à 17h30, le culte cantate se tiendra donc pour, je crois, la première fois ici. Une manière de replacer les cantates dans leur sens d'origine, puisqu'elles étaient composées pour les célébrations. Donc, cet après-midi, il fallait s'inscrire, il n'y a plus de place. Donc, nous verrons au mois de juin, le premier dimanche de juin, si les jauges peuvent être un petit peu augmentées. Nous vous tiendrons au courant et vérifier sur le site, ce sera indiqué. Donc il y aura un autre culte cantate le premier dimanche du mois de juin. Dans la semaine qui vient, alors, il y aura mardi 4, la pause biblique qui poursuit son exploration des naissances de Jésus et nous irons cette fois lire l'évangile de Jean, l'épître aux Hébreux et je crois l'épître aux Colossiens. Ce sera par visioconférence, donc j'ai envoyé le lien. Ah bon, alors il faut que je le fasse. Et si vous souhaitez le recevoir, indiquez-le-moi ou indiquez-le à Nicole. Ensuite, jeudi 6, il y aura à 12h30 la pause spirituelle, un moment de silence, de musique, de partage autour d'un texte biblique et de prière. Le bureau du conseil presbytéral se réunit vendredi matin par visioconférence. Samedi 8, ce sera le groupe Art et Spiritualité. C'est un petit groupe qui écoute de la musique en lien avec des textes littéraires lus et commentés par notre amie Anne Penesco. Et puis dimanche 9, le culte à 10h30 qui sera présidé par notre ami Philippe Volo. Philippe Volo devait venir assurer le culte le 15 mars de l'année dernière. Ça a été le seul culte annulé pour cause de décision du premier confinement. Et puis il devait revenir au mois de novembre dernier. Tous les cultes ont été annulés en novembre dernier. Donc voilà, il revient avec bonheur dimanche prochain. La soirée des JMJ, hein, vendredi 7, ce sera aussi par visioconférence. Ce sera sur quel thème, Brigitte ? D'accord, un partage de bonnes lectures pour les mois qui viennent. Et puis notre amie Brigitte tient aussi, tu en as là quelques-uns, des exemplaires, des livrets avec les textes des cultes conférences du mois de janvier, dont le thème était, je vous le rappelle, « Comment allez-vous ? » Donc vous pouvez aller la trouver à la fin du culte si vous voulez en acheter un. C'est 10 euros, je crois, hein, c'est ça. Et vous pouvez aussi le commander ou le faire expédier à quelqu'un. Brigitte vous expliquera tout cela. Didier.
Bonjour, bonjour. Notre président de la République ayant décidé que le mercredi 19 mai, on rouvrirait les cinémas, eh bien, on va rouvrir le cinéma du Foyer de l'Arbre le mercredi 19 mai. Pour cause de couvre-feu, la projection sera à 18h30. Comme ça, le film se termine vers 20h, on a le temps de discuter un peu et de rentrer chez soi. Je vous propose une comédie. On a besoin de ça quand même. Ça s'appelle Tueur de dames, malgré le titre. C'est un film anglais avec Alec Guinness et Peter Sellers. Je crois que c'est le premier film de Peter Sellers.
Donc, ça fait un an qu'on essaie de le voir.
Voilà. Et donc, c'est sous réserve parce que c'est quand même la troisième fois que je l'annonce. Hein ? Alors, venez nombreux. Et donc, 18h30 au deuxième étage. À ce sujet, il y a des bulletins d'adhésion à l'association culturelle que vous trouverez sur la petite table derrière si vous voulez adhérer, mais il n'est pas nécessaire d'adhérer pour venir voir les films. Voilà, merci.
Oui, moi je voulais vous parler de la prochaine distribution des paniers du CASP. Vous savez qu'on ne peut toujours pas accueillir nos amis autour d'une table. Je pense que pour ça, il faudra attendre 2022. Donc, j'ai apporté, comme d'habitude, un petit tableau. Donc, il y a des cuisiniers. Il faut préparer des salades et des gâteaux au chocolat. Les poulets, je pense que notre amie Laurence Lucas s'en occupera, comme elle s'en occupait pour les tables en présence. Et sur le petit tableau, si vous avez envie de faire des gâteaux. Par contre, il faudra tous faire la même recette qu'on vous communiquera, bien sûr, hein, pour les salades et pour les gâteaux. Voilà. Et puis, si vous voulez vous joindre à nous pour les distributions, on ne sait pas encore, il y a 35 paniers sur un créneau de 2h30. On vous précisera dans les dimanches qui viennent. Le nombre, mais je pense, de toute façon, on ne peut pas être plus de 4 dans la salle. Mais ce serait bien aussi que les gens se relaient, peut-être par créneau de demi-heure, comme c'est le temps du déjeuner, vous avez tous des familles, etc. Donc voilà, vous inscrivez sur ce petit tableau en nous laissant bien vos téléphones ou vos mails, peu importe. Merci.
Les paniers du CASP, ce sera le 30 mai, le dimanche 30 mai. Voilà, donc il y aura une préparation des petites boîtes avec les salades, le poulet, les gâteaux, dans différentes boîtes, le samedi après-midi, le 29 après-midi, et la distribution des paniers donc aux personnes invitées par le CASP, le dimanche à partir de midi, midi et demi. pour ajouter ce qui était au frais, etc. Nous ajoutons aussi dans ces paniers, outre donc un repas avec une boisson, un masque, et puis quelques petits objets, un savon, je ne sais plus quoi, d'autres, et puis une petite carte avec un mot d'amitié aussi. Donc 29 et 30 mai, il faudra, si vous préparez salade et gâteaux, les apporter le samedi après-midi pour qu'on puisse mettre en boîte et couper les parts de gâteaux. Voilà, mais on le rappellera abondamment les dimanches qui viennent. Et je rappelle aussi que cette action des paniers ou des repas du CASP est organisée par l'Entraide du Foyer de l'Âme, qui est aussi une association distincte de l'association cultuelle, à laquelle vous pouvez adhérer et que vous pouvez soutenir par des dons. Donc n'hésitez pas pour l'Entraide du Foyer de l'Âme. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Alors, voici le moment de l'offrande. Et pendant cette offrande, nous chanterons un cantique. Alors, c'est le cantique que vous trouvez sur la feuille qui a été donnée avec les livrets, les recueils de cantiques. J'espère qu'il y en a une pour tout le monde ou une pour deux. Pardon ? Alors, il est dans nos cœurs te chante, je sais bien, seulement les paroles de nos cœurs te chante sont difficilement chantables. C'est pour ça que je vous propose la version du recueil Alléluia, dont les paroles ont été réécrites. Vous pourrez aller comparer, si vous voulez, les paroles avec celles de nos cœurs te chante. Donc, je vous invite à vous lever pour cette offrande et pour ce chant. Seigneur, accorde-moi d'aimer. C'est le cantique adossé à la cantate de l'Ascension qui sera jouée cet après-midi. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession avec cette réécriture, cette actualisation de la prière du Notre Père. Que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ton appel pour nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché. Que ta volonté, qui s'est manifestée dans le Christ, soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de pain, de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, à la suite de laquelle nous chanterons le spontané de la page 19. Et puis ensuite, ce sera le moment de la bénédiction. Aucun chemin n'est vain, aucun n'est vide quand le regard opte pour la confiance qui transforme le destin en destination. Chacun est espéré au lieu où il se trouve. Chacun est envoyé, engagé à la mesure de ses possibilités pour bâtir le temps en maison d'éternité. Grand Dieu, nous te bénissons. Que la bénédiction de Dieu soit inscrite en vous comme un signe sur votre front, qu'elle rayonne en vous comme une lumière dans votre regard, qu'elle soit placée devant vous comme une lumière sur votre chemin, qu'elle soit posée sur vous comme un manteau de douceur. L'Éternel est avec vous. Amen.